sujet.
Excusez-moi de vous déranger, mais on m'a parlé d'un appartement.
Il y aura du béton impeccable et du béton mal fichu. Ce qui reste, c'est ce qu'il y a d'architecture dedans. Et tout le problème est là-dedans. Qu'est-ce que vous avez voulu me dire ?
Le génie des lieux. Camille Jusa, Lionel Quentin.
Il en peut être dans 10 ans, on foutra ça en l'air, monsieur, comme par le passé. Car c'est une honte, regardez-moi la tête que ça a. On dirait une triphilerie de pétrole.
Mais c'est gentil aussi.
Et les conditions, vous les connaissez?
Bah, il y aura un supplément pour l'eau, la plomberie est toute neuve.
L'architecture, on la ressent. On la ressent physiquement.
La porte.
Le parc de la Villette, la culture en plein air.
Maintenant, là, je suis toujours là, tous les soirs, je suis là.
Tous les soirs, vous êtes au parc de la Villette?
Oui, après le boulot, après mon job. Je viens.
Vous habitez loin?
J'habite à Nation.
Ah oui, vous venez de loin alors?
Oui, je travaille à Courneuve, j'habite à Nation.
C'est sur le chemin?
Oui, c'est le chemin, oui. C'est le même canal là, jusqu'à Bobigny. Parce que je viens à pied. De la Courneuve, je prends le canal à Bobigny jusqu'à Stalingrad. Après, je rentre chez moi.
Ça fait longtemps que vous venez ici?
Oui, depuis 94, hein? 94. Après, j'habitais ici à côté. J'habitais à Rue de Nantes.
Est-ce que le parc a changé depuis 94?
Oui, ça a changé. Tout a changé. Pour les jeux des enfants là-bas. Alors, ils ont mis le parc d'attraction pour l'avant. Avant, il n'était pas là-bas. Maintenant, ils ont mis. Pendant la journée, c'est la ville. Le soir, c'est la campagne. Parce que ça ferme le soir. Hein. Les gens ne restent pas dedans. Le soir, il faut que tout le monde sorte dans le parc.
Ah bon?
Ouais, c'est pas fermé, mais il faut que tout le monde sorte. Personne ne reste dans le parc.
Et vous venez pour faire quoi en général?
Non, pour prendre l'air. Pour seulement prendre l'air de tout. Comme c'est l'été, je voulais pas rentrer à la maison. Quand je reste à la maison, il y a la merde des enfants, les mamans encore, c'est pas bon. Là, je suis resté au parc là, jusqu'à 20h, après je rentre.
D'accord.
Ensuite, il y a un cinéma, ça va venir ici, le 21 juin, le 21 juillet. Il y a un cinéma ici, un grand cinéma gratuit.
Vous allez parfois?
Tout le temps, je suis là-bas. Ça commence à 21h. Hein.
Qu'est-ce que vous avez vu comme film ici?
Le film, j'ai vu Tumbuktu, le Tumbuktu de Mali, là, pour la guerre de Mali. Après, il y a un autre film, j'ai oublié.
Quand on arrive, on n'a pas vraiment l'impression d'être à l'entrée d'un très grand parc. On est avant tout à une porte de Paris et dans une ville où c'est vrai qu'on a l'impression que quand on se trouve dans certains lieux de cette ville, on est dans un autre temps. Quand on est Porte Dorée, on est comme projeté dans l'exposition 1937 avec le bâtiment de la Prane et tout d'un coup, on voyage dans le temps. Ici, Porte de Pantin, on a l'impression de se replonger dans les années 80, dans les... Je sais pas, les vêtements de Gautier, les Rita Mitsouko, les meubles de Philippe Starck. Et puis, c'est trois bâtiments dessinés par Christian de Porzamparc à quelques années d'écart. Le Conservatoire National, la Cité de la Musique, et puis un hôtel qui s'appelle Holiday Inn, je crois maintenant, qui est de l'autre côté du boulevard. Et qui caractérise ce lieu et qui marque ce lieu comme étant associé à ce moment de l'histoire de la création, de l'histoire de l'architecture, de l'histoire du design, et qui est aussi le moment où émerge ce grand projet de Parc de la Villette, qui est plus une collection de projets, une collection d'objets aussi, qui se sont accumulés sur ce site et qui font de ce parc... plus un parc d'architectes, au fond, qu'un parc de paysagistes. On a voulu faire ici le prototype du parc urbain du XXIe siècle. C'est ce que a répété souvent Bernard Tchoumi, qui est le lauréat du concours pour ce parc qui a eu lieu entre 1982 et 1983. Lauréat parmi 472 projets. Hein. C'est un des grands projets mitterrandiens. C'est un grand concours international. Anonyme, ouvert, Et Bernard Tchoumi va finir par l'emporter avec un projet d'architecte, un projet assez conceptuel, et qui semblait être le plus à même surtout de prendre en compte le flou que comportait le programme en fait.
Le programme était flou, c'est sûr, mais on savait qu'il y allait avoir de la musique ici. Le zénith qu'on rejoint d'un pas rapide et parfois inquiet sous les platanes obscures à la tombée de la nuit. Le hot brass, le cabaret sauvage et aujourd'hui, dernière née, la philharmonie. Bref, toute une programmation culturelle, comme on dit, populaire ou pointue. Et puis, il fallait aussi s'amuser ici, se distraire, faire du sport ou encore s'instruire. Il y aurait la Cité des Sciences et la Géode. Le parc, ouvert jour et nuit, grande première, ce sont aussi ces grandes pelouses et ces étranges cubes rouges un peu désarticulés, éparpillés partout. On est au début des années 80, donc, l'État Providence a vécu, même si on ne le sait pas encore, et sur les ruines d'immenses abattoirs industriels, il faut maintenant s'amuser. Demain, ce sera la gauche au pouvoir et l'inénarrable Jack Lang. Il en faudra pour tout le monde et pour tous les goûts.
En mars 1974, le dernier bœuf est abattu dans les abattoirs de la Villette. Les abattoirs sont définitivement fermés. Et à partir de là, va s'initier une réflexion assez longue, assez lente, sur comment reconvertir cette friche, qui est une friche qu'on pourrait dire industrielle, dans la mesure où ces abattoirs l'étaient, et sur lequel cohabitent un certain nombre de bâtiments, parfois de très grande taille. C'est le cas de cette halle dessinée par un élève de Baltar, qui fait à peu près 250 mètres de long, hein, qui est à peu près l'emprise du Palais Royal. Hein, c'est quand même un très gros objet. C'est là qu'arrivaient par train les animaux. Ils étaient répartis selon leur espèce dans ces trois halles, étaient vendus et ensuite étaient abattus plutôt de l'autre côté du site, de l'autre côté du canal de l'Ourcq, sur la partie nord, là où se trouvaient les abattoirs. Dans la halle des veaux et des porcs, on a organisé une salle de concert qui a été un lieu assez mythique dans les années 75-80, en quelque sorte, où tous les grands groupes de pop, rock ont joué, de Pink Floyd aux Stones, de Bob Marley à Patti Smith, se sont produits sous cette halle qu'on appelait le Pavillon de Paris, et donc qui était en plein milieu d'une friche. Et oui. Donc beaucoup de gens se plaignaient de ça, de débarquant porte de Pantin au métro comme nous tout à l'heure, se retrouvant au milieu d'une friche totalement dévastée, et puis assistant parfois à des concerts fabuleux, mais dans des conditions un peu limites.
Et donc pourtant, malgré cette friche qui commence à vivre, avec des concerts, avec des événements, on fait plutôt table rase de l'essentiel des objets qui sont sur cette friche, et c'est Bernard Tchoumi qui remporte le projet.
Bernard Tchoumi, il n'avait pas construit, il n'avait rien, il avait 30 ans, il avait une trentaine d'années, il avait absolument pas construit, c'est un fils d'architecte. Pendant toutes les années 70, il va plutôt développer des recherches assez conceptuelles sur l'architecture. Il va produire des écrits assez théoriques, très, très inspirés par ce qu'on appelle la French Theory, Foucault, Barthes, Derrida, Bataille, etc. Alors, Bernard Tchoumi, pendant toute cette décennie de recherche, a cherché à refonder l'architecture sur des nouveaux principes, ou plutôt, il a cherché à déconstruire les principes sur lesquels se fondait l'architecture jusqu'à présent, en essayant de penser l'architecture dans une continuité entre l'espace et ce qui s'y passe, en quelque sorte. Je pense que ça doit être un de ces aphorismes. Tchoumi est quelqu'un qui pense par aphorisme un peu. C'est quelqu'un qui a beaucoup formulé comme ça de espèces de slogans, hein, assez efficaces, mais dont on peut douter de l'épaisseur finalement. Bon, en tout cas, la position qui est la sienne au moment du concours, c'est effectivement de penser à la fois la forme et l'espace, le mouvement, l'action et tous les événements qui peuvent advenir dans un espace.
En réponse aux trois points de ce programme complexe, culture, sport et loisirs, Bernard Tschumi propose trois systèmes superposés. Des points, des lignes, des surfaces. Les surfaces, ce sont ces espaces de verdure dégagés. Les lignes, ce sont les allées, toutes droites ou au contraire, qui font des boucles. Quant aux points, ce sont tous ces petits bâtiments rouges, les folies, disséminés dans tout le parc. Plutôt que de rajouter un grand bâtiment, Tschumi a préféré l'éclater en 26 cubes. Ça ne se voit pas au premier coup d'œil, mais elles sont disposées sur une grille régulière de bataille navale. Les trois systèmes ne se confondent pas, mais se croisent et se contaminent. On entre dans le parc et on rebondit d'un système à l'autre. On glisse du sport au loisir, du loisir à la culture et pourquoi pas de la culture au sport.
Vous connaissez depuis que vous êtes enfant ?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous pensez du parc ?
Bah, c'est bien, c'est très... Il y a trop de monde. C'est bien. C'est bien ou c'est pas bien ? Ça dépend. Regardez. Ils sont en train de faire la baignade. Ils n'ont pas le droit. Voilà. Non, c'est bien, c'est super. Pour la sortie en famille, c'est très très bien.
Vous venez en famille ou...
Oui, donc on vient souvent en famille. Là, je suis avec mon fils, je suis avec ma tante et mes cousins. On vient souvent en famille. Des fois, on vient pique-niquer de l'autre côté de canal. C'est super.
Est-ce que ça a changé ?
Oui, ça a changé beaucoup. Oui. Il y a plus de monde qu'avant.
Ah oui ?
Parce qu'il y a plus d'attractions.
Comme quoi, par exemple ?
Bah, déjà, des toboggans. Avant, il y avait juste un ou deux toboggans. Et là, il y a plein. De l'autre côté, vous pouvez voir, il y a plein de toboggans. Il y a les petits manèges. Il y a plein de trucs qui ont changé.
Le projet de Tschumi est très sophistiqué, c'est une sorte de protocole très savant, etc. Et pourtant, il a généré des espaces extrêmement simples d'accès, très accessibles, très appropriables, et notamment ces grandes pelouses, il y en a deux, il y a la grande pelouse, il y en a trois en réalité. Et ce sont simplement des surfaces d'herbe, sans barrière, totalement plates, totalement disponibles pour... on voit des gens jouer au foot, d'autres qui bronzent. Tout à l'heure, des gens faisaient la gymnastique. C'est un endroit où on peut venir pique-niquer. On peut très librement, un peu comme dans les grands parcs anglo-saxons. Si vous allez à Londres, à New York, à Montréal, on a ce genre de parc totalement ouvert le jour et la nuit et où une certaine liberté d'usage peut s'exercer. C'est-à-dire que si vous allez au jardin du Luxembourg, assez vite, vous voyez que même si c'est pas un gardien qui va venir vous faire une remarque, le regard des autres ou les conventions sociales font que un certain nombre de choses sont impossibles. Bon, à la Villette, il semble que à peu près tout soit possible, de jour comme de nuit, et un certain nombre d'usages sportifs, ludiques, récréatifs. Je crois que c'est l'endroit où il y a la plus grande concentration de Pokémon Go. donc, toutes ces cultures urbaines sont venues assez spontanément s'articuler à cet espace très disponible. C'est un grand horizon, un grand plateau, comme un plateau de jeu en fait. Il y a quelque chose comme un grand échiquier sur lequel les pratiques sociales vont s'élaborer.
Didier Fusier, quand vous êtes nommé président de l'établissement public du parc et de la Grande Halle de la Villette, quel est votre premier sentiment ? Parce que c'est un sacré engin quand même cet endroit.
Alors, je crois que ce qui est beau ici, c'est que tout le monde a une histoire avec ce parc. C'est-à-dire, on a vu un spectacle au Zénith, on a fait du bateau, c'est souvent là que les enfants apprennent à faire du vélo à Paris. Donc, si vous voulez, vous trouverez rarement une personne qui ne sera pas venue pour une raison ou une autre sur le parc. Et chacun, donc, a son histoire personnelle, aussi sa vision du parc. Et nous, enfin, quand on y vit plus que d'autres, évidemment, mais c'est le cas aussi pour Laurent Bell, qui est le patron de la Philharmonie, tout le monde, en fin de compte, les sensations que l'on a dans ce parc dépendent du moment de la journée où on le fréquente. Quand vous arrivez tôt le matin, vous avez les Chinois qui font leurs exercices du matin. On passe après avec les Jamaïcains à la tombée de la nuit. Et puis il y a tous les enfants l'après-midi. Puis vous savez, c'est un parc qui est ouvert toute la nuit. Donc le soir, il y a d'autres personnes. Puis c'est un grand rendez-vous pour les amoureux. Donc on vit en fonction de l'heure, plus qu'avec les saisons. Parce que on ressent, évidemment, on voit bien que le parc est différent aussi dans sa vision. En été, vous avez des feuilles qui cachent les bâtiments, et en hiver, tout à coup, tac, tout arrive. Vous revoyez toutes les folies de Tchoumi, vous voyez la philharmonie de Jean Nouvel, vous voyez Penzan Park. Donc vous avez, en fait, beaucoup d'utilisateurs du parc. Tout le monde ne va pas au spectacle, même si on a énormément de salles de spectacle sur le parc. Donc je crois que petit à petit, chacun trouve son jardin. Donc c'est quelque chose de effectivement difficile à identifier, certainement pour la fête. Beaucoup de gens viennent en petits groupes, pique-niquer, jouer au football. On donne tout pour... on n'interdit rien. Donc nous, en fin de compte, notre volonté, c'est de laisser le public faire ce qu'il veut.
Ici dans ce parc.
Allez les gars!
Parce que c'est un bel endroit pour se poser avec des amis, il y a de la place.
Et c'est pas loin.
C'est agréable. Puis voilà, je sais pas, avec la pelouse, le canal à côté,
c'est super grand.
De quoi? Pourquoi on vient à la Villette?
Ah!
Parce qu'il fait beau, il fait chaud. Parce
que c'est un des seuls endroits où il y a plein de places et on peut être un peu tranquille.
Puis
les parcs sont bondés, genre.
Ouais.
Vous habitez dans quel quartier?
Dans le 10e. Le 10e et 3e.
Ouais, dans le 11e.
Pourquoi vous n'allez pas par exemple au Butte-Chaumont?
On y va parfois, mais il n'y a pas d'eau
et c'est moins grand. Enfin, c'est pas moins grand, mais c'est en pente.
Il y a beaucoup plus d'activités sur le côté. Vous croisez beaucoup plus de personnes. En tout cas, dans notre cercle d'amis, il y a beaucoup plus de personnes qui vont à la Villette qu'au Butte-Chaumont.
Ce sont les garçons qui font des démonstrations et les filles sont habillées, sont pas du tout en maillot.
Non, parce qu'on n'a pas pris notre maillot. On n'habite pas très proche, du coup c'est vrai qu'après pour se rincer c'est un peu une galère de prendre le métro et rentrer à la maison se rincer, surtout que c'est très sale. Donc les voitures.
Oh dégage, putain,
ah putain.
C'est des centres d'activité.
C'est une architecture cubique assez futuriste.
C'est un cubique, c'est un rond, bâtard.
Ah, la géode.
Non, mais là, il y a des films dans la géode et tout. C'est lourd.
Ah ouais, bah c'est projeté.
Oui,
c'est une vue panoramique à 360 degrés.
Mais l'architecture, là, tous ces petits cubes rouges, vous en pensez quoi?
Bah, c'est très futuriste et très...
Ouais, c'est rond, quoi.
Très abstrait. Très abstrait.
C'est rond. Non, mais moi, je vais sauter, je prends une plaine d'aller jusqu'à là-bas.
Allez, on a peut-être une minute. On saute du pont, ouais, je suis là.
Allez.
Quelle est la place dans ce parc des années 80 de modèles comme Central Park ou Hyde Park? Est-ce que Tchoumi il est très tourné vers les États-Unis aussi? Est-ce que ça va compter?
Oui, alors je pense qu'il y a une grosse différence quand même par rapport à ces grands parcs urbains du 19e siècle. C'est la visée sociale et politique. Je pense que les grands parcs urbains du 19e avaient une visée hygiéniste, avaient une visée réformatrice. Il s'agissait de réformer le corps social par ce contact à la nature, à la verdure, à la végétation. Je pense que le parc de la Villette ne s'adresse pas au corps social, mais s'adresse au corps de l'individu. C'est plutôt un espace où chaque individu va pouvoir déployer sa propre trajectoire, en fait. C'est un espace très individualiste qui entérine cette démultiplication des pratiques et des modes de vie, et des générations, des classes sociales, donc, qui entérine une forme de fragmentation postmoderne de la vie quotidienne et qui lui offre un parc où chacun va pouvoir trouver sa place, un jeune footballeur, un amateur de musique philharmonique, un rappeur, un tagueur, etc. etc. Donc on est plus sur une sorte de scène où la vie individuelle va pouvoir s'épanouir dans cette dimension de l'homo ludens contemporain, en fait.
Vous venez au parc de la Villette
Parce qu'en fait, on habite à l'étranger et moi, je suis de Paris à la base. Et quand je reviens ici, j'ai jamais retrouvé les parcs de mon enfance, les endroits où j'avais l'habitude d'aller avec mes parents ou mes amis. Voilà.
Vous habitez où ?
À Mexico.
D'ici, on est donc sur la pelouse qui fait face à la Géode et la Cité de la Science. On a le canal de l'Ourcq et puis on a tous ces petits cubes rouges, les folies. Qu'est-ce que vous pensez de ces petits points rouges dans le parc ?
Que opinas de las cositas rojas ?
Comment c'était ça ?
Non, parce qu'il me demandait qu'est-ce que c'était. Ça l'interpellait beaucoup parce qu'il a étudié l'architecture. Il me dit, mais c'est quoi toutes ces petites boîtes rouges partout ? Et je dis, c'est plein de concepts de jeux pour les enfants, mais je sais pas trop. Je crois que je suis jamais rentrée dans toutes ces petites boîtes rouges, c'est nouveau, non ?
Et est-ce que lui, ça lui plaît ? Ça vous plaît ?
Te gusta ?
Ah, si. C'est comme que différent à tout, rompe con todo. Et puis llama la attention.
Ça.
Las formas están padres.
La forme, c'est un peu en contraste avec le paysage. Et on les retrouve un peu partout, donc c'est comme un petit point de repère à chaque fois.
Pero no sé para qué sirve.
Mais on ne sait pas à quoi ça sert.
Rouge comme l'écharpe de Tchoumi, rouge comme le sang qui s'est coulé des bêtes dans les abattoirs de la Villette. Rouge aussi, qui était une couleur très dominante dans les avant-gardes russes des années 20, qui est une des grandes références de Tchoumi pour dessiner ces objets. Ce qu'on appelle le constructivisme russe. Ces pavillons, il les nomme, et c'est ce deuxième coup de génie de Tchoumi, il les nomme des folies. Qui à la fois lui permet de se mettre en lien avec toute l'histoire de l'architecture et de l'art des jardins, hein, les folies qu'on trouvait dans les parcs pittoresques, ces fabriques, comme on le disait, qui étaient des architectures de fantaisie qui jalonnaient ces parcs romantiques. Et donc il rattache son œuvre à la grande histoire de l'architecture. Et d'ailleurs, ce nom est resté. D'ailleurs, je vois que ces folies s'appellent toujours des folies. C'est écrit dessus, la folie café, en face de nous. Alors, ces folies ont deux fonctions. La première, c'est de ponctuer ce territoire qui est très vaste quand même. 55 hectares, c'est pas rien. Pour donner une unité à un territoire aussi vaste, comment on fait ? Avec aussi peu de moyens, finalement. Donc, chaque folie est une sorte de métonymie du reste du parc. Je crois que c'est Derrida qui a parlé de ces folies comme un système métonymique, c'est-à-dire où la partie parle pour le tout. Chaque folie, c'est une sorte de contrat visuel qui est fait avec le visiteur. C'est-à-dire, quand on en voit une, on en voit deux, on en voit trois, on sait que le système va se prolonger sur l'ensemble du site et voire en dehors du site. Ça va avec l'idée que ce parc est ouvert le jour, ouvert la nuit, qu'il vit tout le temps et qu'il doit non pas être une sorte d'hétérotopie comme les parcs du 19e, comme Foucault en a parlé, mais un parc totalement poreux à la ville contemporaine. Bon, voilà. Donc ça, c'est la première fonction du système des folies. Et la seconde, c'est d'abriter des programmes, des fonctions, elle-même extrêmement changeante. On voit ici, il y a un café, mais il n'a pas toujours existé. Un peu plus loin, une boîte de nuit, ailleurs, une billetterie, encore après, des bureaux. Alors, le choix de Tchoumi a été de rendre la forme de ces folies totalement indépendante de leur contenu. Et ça aussi, c'est une idée assez intéressante de ce projet, c'est d'avoir découplé complètement la forme et la fonction, et la forme de ces objets est totalement autoréférentielle. C'est une sorte de variation sur un thème architectural qui est le cube, et à partir de là, on extrude, on déforme, on décale, on opère un certain nombre de déformations à ce cube, pour exactement comme dans un thème en jazz, on en tire toutes sortes de formes inattendues, en partant de la même structure.
À la fin des années 50, on a décidé de moderniser les abattoirs. De l'autre côté du canal, ce Styx qui sépare les vaches vivantes des vaches mortes, on a coulé une mégastructure de 600 mètres de long.
Porte de Pantin, le marché de la Villette. L'abattoir est relié au marché par un pont jeté sur l'Ourcq pour le transbordement du bétail.
Dans l'ambiance assourdissante des treuils pneumatiques, les tueurs et ouvriers des chaudoirs travaillent entourés des vapeurs grises du sang des bêtes.
Mais déjà, les progrès de la réfrigération rendent le monstre obsolète. On ferme les abattoirs flambant neufs, c'est le scandale de la Villette. Puis, l'air de rien, on rhabille les tonnes de béton tout frais et on ouvre la Cité des Sciences sur le fantôme de ce géant industriel planifié par l'État. Aujourd'hui, l'État nous fait des parcs, tente de nous amuser. Pour prendre un peu de hauteur, on est monté sur le dos de la Philharmonie, à cet endroit où son toit descend en oblique jusqu'au sol. D'ici, on a vu tout en bas une maigre grille et nulle part où aller. Car à la lisière du parc, on bute sur le périph.
C'est un des échecs de ce parc qui s'est voulu être le prototype du parc urbain du 21e siècle, selon les termes de Bernard Tchoumi. Et moi, il me semble qu'un des grands enjeux du 21e siècle pour la métropole de Paris, c'est la relation avec sa banlieue. Et là, pour le coup, ce parc n'a rien résolu, au fond, et n'a pas été à même d'établir de relations. Pourtant, cette banlieue, c'est Pantin, là, de l'autre côté, c'est un territoire qui est en grande transformation. Et la seule relation, pour l'instant, qui s'établit entre Pantin et le parc de la Villette, c'est les berges du canal de l'Ourcq, finalement. Et puis, la construction de la Philharmonie, cette énorme montagne de béton, ce monstre, cette espèce de cachalot sur le dos duquel on se trouve maintenant, est venue consolider, conforter cette frontière, chargé d'encore plus de matière. Donc finalement, on continue d'être dans ce paradigme de s'adosser au périphérique, de lui tourner le dos, plutôt que de le faire participer à l'esthétique, au paysage du parc, et d'essayer de trouver des porosités Paris-banlieue.
La journée se termine. Dans l'étable, les moutons encore agités s'endormiront avec le silence. Ils n'entendront pas les grilles de leur prison se refermer sur eux, ni le petit train de Paris-Villette qui s'en ira à la tombée de la nuit chercher dans les campagnes les victimes du lendemain.
C'était le génie des lieux, le parc de la Villette, la culture en plein air. Avec Didier Fusillé et Pierre Chabard, professeur et critique d'architecture, que vous pourrez lire dans l'excellente revue Criticat que l'on vous recommande vivement. Prise de son Gilles Gallinaro, mixage Bernard Lagnel, la réalisation est signée Lionel Quentin et c'est une émission de Camille Jusin. Le génie des lieux serait écouter ce podcast par morceaux ou tout entier sur franceculture.fr. On vous a laissé à la page de l'émission quelques photos de Julien Donada. Dans notre prochain numéro, d'autres halles, mais cette fois celle du ventre de Paris. Nous plongerons sous la canopée, dans le trou des halles, et nous essaierons de déjouer la malédiction de cet éternel chantier parisien. À la semaine prochaine.